Rencontre avec un élu, une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On accueille Richard Liauger, député de la Moselle et rapporteur de la loi Elan. Bonjour monsieur le député.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Monsieur le député, vous avez joué un rôle central dans l'écriture du rapport d'évaluation suite à la loi Elan il y a 4 ans avec 3 autres députés. Quels sont un petit peu les regards rétrospectifs que vous portez justement après 4 ans de mise en œuvre de la loi Elan, et quels sont selon vous les principaux points positifs qui ont notamment été mis en œuvre ?
Alors cette loi Elan, il faut le rappeler quand même, a été une loi assez gigantesque. Hein. Je me permets, puisque c'était tout le début du quinquennat, on a passé cette loi en 2018, donc oui. Ça fait un petit moment. Il s'est passé beaucoup de choses d'ailleurs en France et dans le monde depuis cette date, qui ont en partie impacté d'ailleurs l'application de cette loi Elan. Donc c'est quelque chose de monumental qui touche évidemment tous les domaines de l'urbanisme, du logement et particulièrement d'ailleurs du logement social. Première chose d'ailleurs par rapport au logement social, c'est peut-être la première chose qu'on peut remarquer, c'est-à-dire que cette loi avait pour vocation de faire regrouper un petit peu les bailleurs sociaux. Et c'est ce qui est vraiment en train de se produire. Il y a des vrais regroupements autour de pôles qui sont maintenant des pôles significatifs qui permettent, notamment aux bailleurs les plus petits, parce que c'était eux qui étaient entre guillemets visés, à retrouver une puissance financière qui permette effectivement de construire des logements sociaux, ce dont la France a beaucoup besoin. Et puis, sur le côté de l'urbanisme, les goûts, les PPA, enfin, un certain nombre de choses sont en route aujourd'hui. On a pu le constater dans les auditions pour le bilan de cette loi Elan. Particulièrement, je suis assez attentif, et peut-être c'est une chose mais on en parlera un peu, qui n'a pas totalement marché, c'est la capacité qu'il y avait aujourd'hui pour les collectivités, ou même l'obligation qu'il y a pour les collectivités, de demander de déposer le permis de construire de manière numérique.
Oui, depuis le 1er janvier 2022.
Voilà, beaucoup ne sont pas encore équipés, et donc ça ralentit la capacité que certains ont à délivrer, du coup, derrière. C'est permis de construire. Et je dirais quelque chose qui m'énerve un petit peu plus, c'est que quelquefois, on a d'ailleurs des retours de promoteurs qui nous disent, ou d'architectes qui nous disent que on leur demande toujours des pièces complémentaires, alors que c'était soi-disant interdit. Au bout de une semaine ou deux semaines, on check le permis de construire et puis on y va, on instruit le permis. Donc, y a eu beaucoup, beaucoup de choses dans la loi Elan, on ne peut pas les détailler ici, qui avaient pour vocation à faire en sorte que les permis de construire se développent le plus vite possible pour construire plus et loger les Français. Et en fait, on se rend compte que, pour plein de raisons, le Covid est aussi un peu en cause, il y a effectivement un certain nombre de freins qui, à mon avis, ne sont pas dus à la loi Elan elle-même, mais bien à l'application de cette loi, notamment du côté des collectivités locales.
Donc vous avez parlé effectivement du regroupement des bailleurs pour leur permettre d'avoir un impact un peu plus fort, du permis de construire numérique qui devait notamment aussi permettre de renforcer l'acte de construire et de faciliter peut-être les démarches notamment administratives. Aujourd'hui, vous avez notamment noté dans ce rapport que le choc de l'offre n'avait pas eu lieu. On entend ici et là notamment qu'il y a une vraie crise du logement en France puisque le nombre de mises en construction est ralenti. Les fameux maires bâtisseurs sont de moins en moins nombreux. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de relancer la machine et de remettre en route un petit peu ce secteur que de construire pour répondre aux besoins de loger les uns les autres?
Vous me permettrez de réagir de manière un petit peu politique, si vous voulez bien, puisque c'est quand même un peu... Et puis on est dans le contexte qui me permet de dire ça.
Vous en prie.
Vous dites, vous-même, les maires bâtisseurs sont de moins en moins nombreux. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si vous regardez les grandes villes, toutes les campagnes municipales qui ont eu lieu il y a 2 ans se sont faites contre la construction. Ouais. Et les maires qui ont été élus sont des maires qui refusent de développer leur ville du point de vue de la construction. Donc ça pose un vrai problème. Alors là, évidemment, c'est la démocratie. Les Français ont bien le droit de voter et d'élire les maires qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, on est obligé de constater que, effectivement, comme vous dites, les maires bâtisseurs ne sont plus trop à la tête, en tout cas des grandes villes et même peut-être des villes moyennes. Mais je crois que c'est important parce que c'est un contexte général où on a fait peur aux Français, ou en tout cas les Français ont peur, et dès que quelque chose se passe au niveau de la construction, ils ont l'impression que c'est au détriment de leur
qualité de
confort.
Vie.
Voilà, exactement. Et ça, c'est à mon avis le problème principal qu'on va avoir à gérer dans les années à venir. Et donc, on peut faire ce qu'on veut au niveau des lois, et on peut faire beaucoup de choses, effectivement, d'un point de vue législatif, mais si sur le terrain, je reviens sur cette question, les maires n'ont pas la volonté de développer leur ville, je crois qu'on aura toujours ce problème essentiel.
Alors on parlait effectivement des maires bâtisseurs, de cette volonté de ne plus construire, notamment en période électorale, pour éviter de se mettre peut-être une partie de la population à dos. Comment est-ce que vous expliquez, alors effectivement vous l'avez évoqué, on est dans le cadre d'une campagne présidentielle, le logement n'arrive qu'en 14e priorité des Français, alors qu'il représente pourtant pour certains 30% du budget de certains ménages. Comment est-ce que vous expliquez que finalement les uns et les autres n'y accordent pas autant de place, et que le logement n'est pas un des premiers facteurs sur lesquels les uns et les autres, notamment les candidats,
ça,
insistent.
Ça, c'est vraiment une grande interrogation qui est la mienne depuis 20 ans que je m'occupe de la question du logement. J'y répondrai de manière assez simple. J'ai l'impression que les Français, une fois qu'ils sont logés, et même dans des conditions difficiles, c'est terrible de le dire, finalement, quelque part, ils se satisfont de leur situation. Je pense que peut-être, d'ailleurs, avec le renchérissement du coût, vous l'avez dit, de l'immobilier, et aussi, il faut le dire, puisque c'est un élément essentiel, des matières premières et donc du chauffage, de l'électricité, etc., etc., peut-être ceci, les Français seront-ils plus exigeants. Après, c'est à nous aussi de faire en sorte, et quand je dis nous, c'est nous les politiques, de ne pas faire de démagogie à ce niveau-là, et vous le disiez très bien tout à l'heure, il est vrai que, on traite assez facilement les maires de bétonneurs quand ils construisent deux immeubles dans leur ville. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait que, effectivement, et je suis toujours très très étonné du fait que les Français en général ne mettent pas le logement en premier. Et je pense que c'est parce que finalement ils se satisfont d'une situation qui malgré tout est la leur aujourd'hui, quoi.
Alors c'est vrai que effectivement une fois que les gens sont logés, peut-être qu'ils sont résilients. C'est ce que je retiens effectivement de cet échange.
C'est une explication. Je suis bien obligé de tenter une hypothèse plus qu'une explication.
On va effectivement voir comment est-ce que notamment sur le coût en matière énergétique, le conflit entre l'Ukraine et la Russie joue. Après c'est vrai qu'il faudrait rappeler peut-être que avec le logement et notamment en matière de rénovation énergétique, les Français pourraient regagner en pouvoir d'achat quand ils rénovent leur logement. Mais je profite de ce sujet pour justement bifurquer sur le rapport sur le logement et notamment la précarité des étudiants, puisque vous avez remis en décembre dernier un rapport en ce sens pour essayer de trouver une solution pour loger les étudiants, les apprentis ou les jeunes actifs. Quelles sont notamment les conclusions et les préconisations que vous faites suite à ce rapport ?
Alors bon, c'est une situation que je connais bien aussi. Je crois qu'il faut que les députés travaillent surtout sur les champs qu'ils maîtrisent. Bon, je suis universitaire, j'ai été président d'université, donc je connais bien ce domaine. Et je me suis aussi occupé modestement du logement pendant 12 ans dans une grande ville. Et ce que je constate, c'est qu'on est à un angle mort de la politique, on peut dire nationale, mais aussi locale, puisque d'un côté, on a un ministère du logement qui s'occupe du logement, et d'autre côté, des ministères des universités qui s'occupent des universités, et que c'est un peu compliqué de développer une politique. Et pourtant, les étudiants ont, je dirais, vraiment de manière presque dramatique, absolument besoin de se loger. Et ils se logent. Et je pense que dans les populations qu'on peut évoquer, on met de côté les SDF, les populations en très très grande difficulté, c'est eux qui arrivent juste après, avec des grandes difficultés pour se loger. Vous parliez de 30% d'efforts par rapport à un budget. Pour un étudiant, ça peut représenter 50%. Et encore, quand ils arrivent à trouver effectivement des solutions. Alors, ils sont aidés par leurs parents. Il y a toujours là aussi de la résilience et même des aides. Mais je crois que ça devrait être une des grandes priorités. Aujourd'hui, c'est de permettre, parce que accueillir dans des bonnes conditions des étudiants, y compris étrangers, c'est vraiment, ça devrait être l'honneur de la France.
Vous rappelez que 50% de leur budget peut être impacté par le logement. C'est vrai que c'est un budget qui est absolument énorme, surtout quand on va commencer dans la vie active et qu'on fait ses études. Dans le rapport, vous préconisez notamment le lancement d'un Pinel étudiant pour doper la production de logements.
Je préconise deux choses. Bon, le Pinel, ça serait en direction, je dirais, de la promotion privée. Je crois qu'il faut ne s'interdire aucune porte à ouvrir pour développer ce logement étudiant. Mais en premier lieu, je propose vraiment qu'on s'intéresse au foncier des universités. Oui. 15 millions de mètres carrés aujourd'hui, et je propose aussi que les universités demandent la dévolution de leur patrimoine de manière à travailler sur ce foncier et de manière à pouvoir eux-mêmes faire de la promotion à travers un outil qu'on a pu développer dans la loi 3DS notamment, c'est ce qu'on appelle les SPL universitaires. Et à partir du moment où les universités pourraient libérer un petit peu de leur foncier, parce que le foncier, et là je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, représente aujourd'hui le vrai problème pour la construction en France, et quand on a du foncier, la dernière chose qu'on fait, c'est un logement étudiant. La première chose, ça va être de la promotion immobilière, la deuxième, une VFA pour le logement social... Ouais. La troisième pour les personnes âgées. Et puis, en tout dernier, on se dit « Ah ben, peut-être, il y a les étudiants, il faudrait effectivement penser à eux. » Mais c'est ce qu'il y a de beaucoup moins rentable. Donc, il faut libérer le foncier. Il faut que l'État libère le foncier quasiment à l'euro symbolique. Et le foncier des universités est vraiment en première ligne de ce point de vue-là.
Et vous avez raison de rappeler qu'effectivement, le coût du foncier est un enjeu majeur. On avait notamment reçu Jean-Luc Laglaise, avec qui vous avez fait le rapport oui, post-loi Elan, qui avait eu une mission sur le coût du foncier il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif du ZAN, zéro artificialisation nette, avec la loi climat, peut être justement un handicap pour essayer de libérer du foncier et faciliter pour certaines communes ou même pour les universités le fait de pouvoir construire des logements ?
Absolument pas. Je crois que vraiment, cette question de la zéro artificialisation nette, ça impacte surtout les communes rurales. Alors que ça peut leur poser un problème pour le développement.
En matière de développement.
Voilà. Mais en fait, on a suffisamment de friches. Et encore une fois, si on se tourne vers le foncier universitaire, je ne vais pas répéter, il me semble qu'on a largement suffisamment de quoi travailler sur du foncier à l'intérieur des grandes villes, qui sont généralement, par exemple, des villes universitaires. Mais on peut imaginer, effectivement, qu'on construise sur ce foncier d'autres choses que du logement étudiant. Je ne suis pas monomaniaque de ce point de vue-là.
Non, mais je retiens qu'il y a 15 millions de mètres carrés, effectivement, de foncier pour l'université, et qu'une partie de ce foncier pourrait notamment être utilisée ou tout du moins réfléchie sur une solution pour accueillir les étudiants. On y sera attentif, on espère qu'on pourra en reparler à l'aune de ce nouveau quinquennat pour essayer de trouver des solutions pour l'ensemble des étudiants. Merci Richard Lieuger d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
À très bientôt, au revoir.
J'espère, au revoir.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria.